Il y a, ce genre de choses peut survenir n'importe quand. Tout peut survenir à New York. Mais je pense à Times Square, je pense à Broadway, où il y a tellement de vedettes, des vraies, de vraies vedettes qui peuvent circuler et tomber devant vous. Mais comme il y a des gens qui peuvent dire « Hey, c'est un tel, ça peut arriver, tout peut arriver à New York où on retrouve en ce dimanche matin Richard Châteauvert. Salut Richard. »
Bonjour Paul, je ne ressemble à personne de célèbre.
On dit ça.
Quand j'étais adolescent, je ressemblais apparemment. Tout le monde me disait, tu ressembles à un tel. Il habite à Sainte-Foy. Et moi, j'habitais à Sillery. Puis quand on a 14-15 ans, Sainte-Foy, c'est quand même assez loin de Sillery. Alors, j'ai jamais fait de démarche pour retrouver ce type. Mais enfin, je ressemblais à quelqu'un.
Mais j'ai raison de dire que s'il y a bien un endroit à New York où on peut voir les vrais personnages, les vraies personnalités sur le trottoir directement, vacant à leurs occupations ou se divertissant ou se restaurant, c'est bien à New York.
Ah oui, j'en ai croisé, Paul.
Ah oui?
J'ai vu Spike Lee. Je pense que j'ai vu Spike Lee à deux reprises.
On a un auditeur ici et qui a comme conjointe Thérèse le sosie de Julia Roberts.
Oui. Effectivement, c'est ce qu'il dit.
Il y a de la chance.
Ouais, c'est pas banal, quand même.
Non, c'est pas banal.
Moi,
il dit, non, mais vraiment, ma conjointe, souvent, on pense que c'est Julia Roberts.
À New York, dans un restaurant sur Fifth Avenue, j'avais rencontré un genre de petit bistrot, pas loin d'un studio d'enregistrement, Ron Moss, qui jouait dans The Beautiful.
Ouais.
Et je l'avais vu, puis j'avais fait, mon Dieu, je le connais, lui. Puis je cherchais dans ma tête, tu sais, je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais, puis effectivement, c'était Ron Moss, mais quand j'ai réalisé que ça pouvait être Ron Moss, j'ai dit, non, ça doit pas être lui. Et finalement, j'ai vu arriver celle qui joue avec lui, qui est arrivée au restaurant après lui, tu sais, ça, ils mangeaient ensemble. Donc, j'ai dit, tiens.
Permettez-moi d'ajouter, Thérèse, on aime ça se vanter.
Ouais.
À Times Square, Richard, j'ai vu la vraie Kate Blanchett. Et je lui ai fait tout simplement un sourire, comme, tu sais, le fan naturel, dans lequel je dis le fan, la personne qui reconnaît. Et elle a été très courtoise et elle m'a retourné le sourire et le petit signe de la main. C'est gentil.
C'est la meilleure façon d'aborder les célébrités. Il faut jamais embêter les célébrités puis leur demander des autographes. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'à New York, tout le monde se prend pour une célébrité. Alors, nous sommes tous des célébrités ici.
Bien, ce matin, on va parler aussi de véhicules autonomes. Moi, juste ça, véhicules autonomes, je trouve qu'il y a contradiction encore. Tesla qui a annoncé à ses propriétaires de voitures qui vont pouvoir demander le téléchargement de nouveaux logiciels de conduite autonome.
Oui, ça, c'est Elon Musk qui a annoncé ça dans un tweet. C'est arrivé, c'est à partir d'hier. Les propriétaires de Tesla peuvent demander le full self-driving, conduite autonome complète. Ça veut dire que le véhicule en mode pilote automatique va pouvoir s'aventurer dans les rues de la ville. Parce que jusqu'ici, pilote automatique ou pilote autonome, voiture autonome, c'était sur les routes. Mais il va falloir que les chauffeurs, les conducteurs de Tesla soit observé sur une période de 7 jours. Évidemment, tout ça va se faire par des logiciels pour observer leur conduite. Et si leur conduite est bonne, ils vont avoir le droit de télécharger ce logiciel de conduite autonome complète. Mais il faut payer 10 000 $ pour la mise à niveau et une souscription de 100 à 200 $ par mois. Mais ça arrive, Paul, au moment où Tesla fait l'objet de deux enquêtes fédérales américaines. L'une de l'Administration américaine de sécurité autoroutière sur 11 accidents dans lesquels des Tesla ont percuté des véhicules d'urgence, des camions incendies, des voitures de police et autres véhicules d'urgence. Il semblerait que le logiciel de Tesla a de la difficulté à détecter ou enfin sans porte ou sans bourbe lorsqu'il y a des gyrophares, des feux clignotants, des fusées éclairantes et des cônes. Donc, c'est 11 accidents.
Faudrait pas, pas avoir ça à Montréal. La pauvre Tesla autonome serait dans la confusion la plus totale à Montréal avec les cônes.
Vous êtes toujours en train de vous plaindre au Québec.
Arrêtez donc, on se plaint pas, mais ben non.
Il semble que chaque fois que je vous entends, il y a toujours de la construction à Montréal. C'est vrai qu'il y en a
souvent. C'est pire que jamais. Non, mais sérieusement, Jérémy,
non, c'est pas évident,
on rit pas pour rien, là.
Écoutez, c'est 11 accidents. Allez-y, parlez-moi.
Non, ce que j'allais dire, c'est qu'avant de mettre des maudites voitures autonomes, moi, j'aime ça conduire, ça me relaxe, j'aime ça conduire. Il y a certainement beaucoup de gens qui, comme moi, disent, pas si mal, j'aime pas être pris dans des bouchons et tout ce que vous voulez, mais bon, conduire, je vois pas l'utilité d'avoir une voiture autonome. Et Richard, souvenez-vous que même nos GPS n'arrivent pas à suivre lorsqu'il y a évolution des travaux. Il faudrait charger ça et recharger ça tous les jours.
Oui, ça c'est vrai. Je comprends votre plaisir de conduire, mais qu'est-ce que vous voulez? Dès qu'il y a une technologie qui est créée, il faut la développer et on la développe et elle s'améliore et c'est ce qui arrive. Donc, ces 11 accidents dont je vous parle ont fait un mort et 17 blessés. Et il y a eu toutes sortes d'histoires avec des Tesla. À un moment donné, il y a un type qui était en état d'ébriété. Il avait mis le mode pilote automatique et ça s'appelle autopilote et il était en état d'ébriété. Il y en a un autre qui regardait un film. Il y en a un autre qui était assis sur la banquette arrière. Donc, on n'a pas fini de...
ça, là, vous voulez freiner brusquement, ça pose problème.
Mais écoutez, ça commence, Paul. Ça commence tout ça. Alors, je veux vous parler aussi de camions autonomes parce que ça, c'est la voie de l'avenir. Vous allez avoir, d'ici à 2030, sur les routes d'Amérique du Nord, des camions semi-remorques autonomes, sans chauffeur. Et vous savez que selon une étude qui a été réalisée en 2017, on dit que la demande de routiers va chuter de 50 à 70 % en Amérique du Nord et en Europe. C'est ça, c'est d'ici à 2030. Ça, je veux. Évidemment, les routiers à l'écoute doivent le savoir déjà. C'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Mais il y a des sociétés, il y a au moins 4 start-up qui développe ces technologies. Alors, c'est que au-dessus du pare-brise du camion, du tracteur, il y a une série de caméras, de capteurs et de radars. Il y en a sous les rétroviseurs. Et ce système peut capter toute la situation de sorte que le camion conduit seul. Il y a une société qui s'appelle Embark, E-M-B-A-R-K, qui a été fondée par 2 Canadiens. Écoutez, Alex Rodriguez, l'un de ces 2 Canadiens, à l'âge de 14 ans, il a participé au championnat du monde de robotique. Il avait développé un robot de moins d'un mètre de haut dont la seule mission était de tirer une rondelle de hockey dans une boîte au milieu d'un champ. Et à l'âge de 20 ans, après avoir fait ses études à l'Université de Waterloo en Ontario avec un autre diplômé, ils ont fait un voyage à Silicon Valley et ils ont fondé Embark. Et cette année, d'ici la fin de l'année, ils vont devenir une société cotée en bourse d'une valeur de 5 milliards de dollars. Et lui, Alex Rodriguez, ce qu'il veut, c'est qu'il veut concéder son logiciel sous licence aux transporteurs et les facturer au kilomètre.
Et c'est pas le joueur de baseball, là?
Non, ça se termine par G-U-E-S, non pas G-U-Z.
Z, ouais.
Mais c'est un jeune génie, et bien, comme Elon Musk, la Silicon Valley est pleine de ces jeunes génies. Il y a une autre société qui s'appelle Aurora, qui a été fondée par un ancien de Google, un ancien d'Uber et un ancien de Tesla. Eux, ils ont lancé un projet pilote cette semaine, au cours de la semaine qui s'achève, avec FedEx pour faire des voyages en camion autonome, mais avec un chauffeur humain, parce que ce sont des tests entre Dallas et Houston.
Attendez, un chauffeur sur le siège arrière ou
à côté? Le chauffeur est assis dans le siège du chauffeur, oui, mais j'espère. Il ne fait rien.
Ben, j'aime mieux ça que l'autre qui est assis sur le siège arrière.
Ah non, ça c'est...
En train d'écouter un film.
Non, si au moins il est assis au volant, c'est déjà ça.
Non, mais c'est l'avenir, ils s'en viennent.
Oui, l'avenir.
D'ici à 2024-2025, il va y avoir sur les routes aux États-Unis, surtout dans le sud. Bien, évidemment, on va commencer dans les régions où la météo est plus clémente, mais vous allez voir ça. Il y a une société qui est cotée en bourse déjà, Too Simple. Elle a conclu une entente avec les camions Ryder pour utiliser les sites de maintenance des camions Ryder comme terminaux. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à voir ces camions semi-remorques dans les rues de Montréal ou les rues de New York. Il va y avoir des terminaux à l'extérieur de la ville. Ouais.
Ça va surtout être sur les grandes autoroutes et les grands axes.
Mais là, le camion, une fois qu'il arrive au terminal, là, il va y avoir un chauffeur humain qui va prendre le volant pour conduire le camion jusque sur le site d'une entreprise, décharger le camion, le recharger. Mais ça s'en vient et c'est une industrie de milliards de dollars. Il y a Amazon qui a commandé 1000 systèmes de conduite autonome à une compagnie qui s'appelle Plus. Et Amazon a pris une option pour acquérir 20 % du capital social de Plus. Il y a un autre concurrent qui s'appelle Waymo, qui est une filiale de Alphabet, la société mère de Google. Waymo a fait une entente avec Daimler. Il y a Volvo qui est impliqué là-dedans. Ils voient, c'est l'avenir. C'est comme les véhicules électriques.
Tout le temps.
Il faut se positionner le plus rapidement possible. Évidemment, c'est comme nos vaccins, Paul. On a appris, je fais un petit aparté, on a appris que le vaccin Moderna est supérieur à celui de Pfizer. Mais évidemment, dans cette course, il y en a un qui va sortir, qui va être le meilleur, l'autre va être le deuxième, le troisième. Ouais. Mais il y en a une société qui est cotée en bourse, il y en a trois autres qui vont être cotées en bourse d'ici la fin de l'année. Et c'est, encore une fois, je le répète, c'est une très mauvaise nouvelle pour les routiers. Mais c'est la voie de l'avenir. Mais encore une fois, j'ai de la difficulté à voir des camions autonomes dans une tempête de neige. C'est sûr qu'il va falloir faire des arbitrages, il va falloir faire des ajustements. Et quand vous avez de la comme au Québec, dans le nord des États-Unis, de la neige, de la gadoue, à un moment donné, est-ce que ces véhicules vont pouvoir fonctionner dans de telles conditions?
Bonne question. Merci beaucoup, Richard. Bonne semaine à New York. On se reparle le week-end prochain.
Tout à fait.
Au revoir. Au retour, Loïc Tassé. Il est un de ceux qui se posent d'énormes questions sur le dénouement de la crise des deux Michael et de Mme Wenzhou de Huawei hier. En fait, tous les éditorialistes semblent convenir que la Chine devient de plus en plus menaçante de par son comportement, son intimidation. Le règlement de la question de la crise impliquant les deux Michael et de Mme Wenzhou nous ramène à une époque de guerre froide, quand l'Union soviétique et les États-Unis s'échangeaient des espions, des gens qu'ils considéraient espions. Ça se faisait par échange. On va parler de tout ça avec Loïc au retour.